20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, nous ferons connaissance ce soir avec un jeune ensemble, le Quatuor Agathe, dont le premier enregistrement vient de paraître, un superbe album dédié à Brahms. Adrien Jurkovic, premier violon du Quatuor, et Simon Yachmé, son violoncelliste, seront à cette occasion à notre micro ce soir. Nous nous offrirons ensuite une petite escapade au Luxembourg avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Quelle place les compositrices occupent-elles dans les programmations françaises? Une étude menée par Elle Women Composers, qui vient d'être dévoilée, montre notamment que leurs œuvres représentent seulement 6,4% de celles qui sont jouées en France et 4% de la part du temps de programme. Alors ces résultats seront présentés et commentés samedi à la Philharmonie de Paris dans le cadre du forum Matrimoine qui se déroulera sur toute la journée. Il sera ponctué d'entretiens, de tables rondes, portant sur les silences de l'histoire, sur la difficulté de constituer un matrimoine, sur les stéréotypes de genre appliqués à la création, ou encore les actions menées et les enjeux d'une lecture genrée. Parmi les intervenants, Héloïse Luzzatti, la fondatrice d'Elle Women Composer, Claire Baudin, directrice de Présence Compositrice, Jean-Philippe Thiellet, président du Centre National de la Musique, ou encore Olivier Mantei, le directeur de la Philharmonie de Paris. Le Festival de Salzbourg se cherche un nouvel intendant, un nouveau directeur artistique, pour succéder à partir d'octobre 2026 à Markus Hinterhäuser, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il s'est porté candidat lui-même. Alors selon plusieurs rumeurs, le chef Franz Welser-Möst, le metteur en scène Barikowski et l'actuel directeur de la Scala, Dominique Meyer, auraient manifesté leur intérêt pour ce poste particulièrement prestigieux. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un petit tour à l'Opéra de Rouen où résonnera la semaine prochaine la musique pétillante de Rossini, l'opéra Tancrède, dans une production mise en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau et dirigée par Georges Petrou, avec Teresa Iervolino, Marina Monzo ou encore Juliette May dans la distribution. Juliette May qui vient d'être couronnée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation. Trois représentations de ce Tancrède les 12, 14 et 16 mars. Trois représentations de ce chef-d'œuvre du bel canto. Véritable coup de foudre dans le ciel bleu et clair du théâtre lyrique italien, disait à son propos Stendhal. En voici quelques notes de l'ouverture. L'ouverture de Tancrède de Rossini, jouée ici par l'Academy of St. Martin in the Fields. Tancrède à l'affiche de l'Opéra de Rouen les 12, 14 et 16 mars.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est la musique de Brahms qui les a réunis pour la première fois et c'est à l'un des grands amours du compositeur allemand Agathe von Siebold qu'ils ont emprunté le nom. Les musiciens du Quatuor Agathe viennent de graver leur premier album, un double album, sorti sous le label Appassionato et il est consacré tout naturellement à Brahms. Adrien Jurkovic et Simon Yachmé, violonistes et violoncellistes du Quatuor, sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Pourquoi Brahms? Qu'est-ce qui fait de Brahms votre référence, j'ai presque envie de dire votre point d'ancrage, Adrien?
C'est ce qui vient d'être dit d'une part, Et puis donc c'est une des premières œuvres qu'on a jouées, c'est le Sextuor de Brahms, le deuxième, qui est donc dédié à Agathe von Siebold et qui porte même dans un de ses thèmes les initiales, les lettres de Agathe sous forme de mélodie. C'est une musique qui correspond pas nécessairement à ce qu'on imagine de Brahms parce qu'elle a quelque chose d'assez fantomatique, un espèce de mystère à percer qui nous a tout de suite fascinés et qui nous a donné envie du coup de plonger dans la musique pour quatuor qui est encore différente, extrêmement variée en fait.
Mais qu'est-ce qui pourrait caractériser en général le son brahmsien, la musique de chambre de Brahms? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît la patte brahmsienne, Simon?
Pour le coup, et souvent, on a tendance à dissocier un tout petit peu les quatuors du reste de son corpus de musique de chambre, à tort ou à raison, mais ce qui est certain, c'est que dans les quatuors, en fait, ça, c'est une combinaison de tellement de choses, en fait, le son brahmsien, qui rend la tâche particulièrement ardue, mais aussi passionnante. C'est cette combinaison entre des mélodies absolument splendides qui ne s'arrêtent jamais, avec une harmonie en dessous qui est souvent extrêmement riche, extrêmement dense, et le tout en essayant d'avoir un son aussi transparent. C'est-à-dire que, du coup, c'est cette espèce de 3D sonore, ça rend le défi passionnant, et c'est vraiment ça le point de départ, c'est d'essayer de trouver notre son qui correspondait à cette musique.
Et enregistrer l'intégrale des quatuors, les trois quatuors étaient une évidence, il fallait enregistrer les trois.
Oui, parce qu'ils sont hyper différents en fait. Pour nous, en tant que quatuor, ça permet de couvrir tout le champ des possibles de notre mode d'expression. Et en plus de ça, Brahms, c'est quelqu'un qui a vraiment été influencé par le passé, comme peu d'autres compositeurs, par Bach, par Palestrina, par Mozart, évidemment. Et donc, on retrouve dans sa musique vraiment toutes ses influences. Et nous, en tant qu'interprète, ça nous permet de d'essayer des milliards de choses en termes de vibrato, en termes de mixage de son, la verticalité, l'horizontalité. Donc, c'est vraiment une espèce de paysage sans fin qu'on avait à découvrir en s'engageant dans cette voie.
Thank you. Le premier mouvement du premier quatuor de Brahms par le quatuor Agathe, dont deux membres, Adrien Jurkovic, premier violon, et Simon Yachmé, violoncelle, sont avec nous ce soir sur Radio Classique. Alors, c'est vrai qu'on entend ici une musique dramatique, tragique, qui a un côté même un petit peu sévère, qui a un côté beethovenien. On sent encore l'influence de Beethoven. Comment Brahms s'affirme-t-il justement dans ce genre du quatuor?
Vous avez effectivement mis le doigt sur quelque chose de très juste, c'est qu'en fait on dirait le prolongement d'un quatuor de Beethoven. Je dirais que l'une des différences fondamentales, c'est la longueur en fait de ces phrases, qui sont beaucoup plus longues que ce qu'on retrouve par exemple chez Beethoven. Et puis des choses du domaine du fantastique un petit peu qui ressortent, notamment dans le troisième mouvement du deuxième quatuor. Il y a des choses comme ça qui évoquent de suite le caractère presque fantastique de Brahms, de cet amour qu'il avait pour notamment les contes nordiques, etc.
Puis il y a les graves, hein, je pense à vous, violoncelliste, des graves absolument sublimes.
Très gâtés. C'est vrai qu'il a toujours extrêmement bien écrit pour violoncelle. D'ailleurs, les graves, le début de la première sonate pour violoncelle de Brahms commence de cette manière-là, avec une sublime mélodie dans le grave.
Est-ce qu'on cherche également une dimension orchestrale? Vous faites référence également au choral chez Brahms. C'est aussi une source d'inspiration pour un quartettiste, Adrien?
Oui, bien sûr. Alors déjà, le choral, pour nous, ça nous accompagne depuis nos débuts avec les chorales de Bach. Quand on est un jeune ensemble et même un plus vieil ensemble, on travaille le son, le mix du son à quatre, vraiment avec les chorales de Bach tous les matins comme des gammes. Donc c'est ce qu'on a fait pendant longtemps et c'est quelque chose qu'on a essayé aussi de mettre dans ces enregistrements. Ensuite, l'autre question, pardon.
Est-ce qu'il y a aussi une dimension orchestrale?
Oui, il y a même une utopie orchestrale de la part de Brahms, qui est en fait, alors en tant que premier violon, moi j'en souffre pas trop parce que souvent j'ai la voix mélodique, donc j'ai qu'une seule partie à jouer. Par contre, mes collègues second violon notamment et altiste ont souvent des parties à remplir pour étoffer en fait l'ensemble et donner ce côté, cette immensité que Brahms rêvait en fait, qui n'est quasiment pas possible.
Oui, d'ailleurs en fait on fait rarement du quatuor, on fait plutôt du quintet voire du sextuor à quatre en fait.
Est-ce que c'est difficile à jouer la musique de Brahms justement?
Oui.
ouais c'est extrêmement, mais pour toutes ces raisons qu'on évoque ici en fait, c'est difficile parce qu'en fait Brahms a énormément souffert à l'écriture de ses quatuors. Il en a écrit pratiquement une vingtaine. Il n'en a gardé que trois. Ça prouve déjà la difficulté du médium quatuor pour lui. Et en fait, l'une des raisons, c'est aussi ça, c'est la multiplicité des voix qui rend en fait l'exercice particulièrement difficile.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Simon, ce côté fantastique et mystérieux qu'on perçoit notamment dans le deuxième quatuor, dans ce troisième mouvement du deuxième quatuor. Quand on joue la musique de Brahms, on a l'impression d'être plongé dans le monde des contes et des légendes nordiques. Comment est-ce que l'on se prépare justement à cet univers? Comment est-ce qu'on s'y plonge? Est-ce que cela peut être visuel aussi? Est-ce que l'on voit des tableaux? Est-ce que l'on se raconte des histoires?
Oui, en fait, c'est une musique qui est sans images, sans texte, c'est pas une musique à programme, donc Brahms nous dit jamais quoi penser quand on voit sa musique. C'est à nous vraiment de se laisser emporter par aussi nos propres imaginaires et ce qu'on projette sur Brahms, forcément. Donc c'est une vision forcément subjective, mais on est influencé évidemment par plein de choses, et notamment une culture aussi cinématographique. Donc ça peut être Le Seigneur des Anneaux, ça peut être une culture du jeu vidéo, des choses comme ça qui peuvent aussi parfois nous influencer et nous faire du coup aller vers des sonorités qu'on n'attribue pas forcément à Brahms d'instinct.
L'exemple de ce mouvement-là, on avait pas mal une image en tête, on imaginait vraiment quatre moines au fond d'une église un peu enneigée comme ça de loin. Et on aimait bien Stiva parce qu'il y a ce côté presque, ce son un peu d'église qui vient de loin. Et donc on imaginait quatre moines qui est au fond de la chapelle.
Et puis d'ailleurs, Brahms lui-même fantasmait une époque médiévale qu'il n'a pas connue et qui n'a probablement jamais existé. Enfin, c'était une espèce de mythe d'une époque de Moyen-Âge un peu mystérieuse comme avait Schumann et tous les romantiques. Donc on peut se permettre aussi, nous, d'imaginer des choses qui n'ont pas existé peut-être. Thank you.
Le troisième mouvement du deuxième quatuor de Brahms, un nouvel extrait de cette intégrale des quatuors de Brahms par le quatuor Agathe, premier enregistrement du quatuor Agathe publié par le label Appassionato. Deux de ses musiciens, Adrien Jurkovic et Simon Yachmé, sont avec nous ce soir sur Radio Classique. Alors un petit mot sur votre parcours. Vous êtes un jeune quatuor fondé en 2016. Vous avez étudié à Paris mais aussi à Berlin. Vous avez l'impression d'être aussi lié à l'école française qu'à l'école allemande. De quatuor, si on peut parler d'école pour vos influences, Adrien.
Oui, mais ça s'est un peu fait à l'envers en fait pour nous, parce qu'on a commencé avec un professeur allemand, Eberhard Fels, à Berlin, et on a terminé avec le quatuor Eben à Vienne, donc en fait, à Munich. Donc on a commencé en tant que quatuor avec une formation même particulièrement allemande.
En plus de ça, on était avec quelqu'un, Eberhard Fels, qui, à l'intérieur même de l'école allemande, est aussi quelqu'un de particulier, notamment pour son apport au niveau de la structure, de la compréhension des proportions des phrases, etc.
Pour gérer les longues phrases brahmsiennes.
Exactement. Et puis c'est quelqu'un qui a une connaissance ultra riche, notamment de toute la musique d'Europe de l'Est. On sait aussi que Brahms a énormément d'influence de ce côté-là, donc il nous a apporté là-dessus. Et puis il y a une culture en fait du son, une densité, un rapport à la corde en fait, qui est un petit peu différent de celui qu'on observe en France, même si tout ça, évidemment, aujourd'hui les musiciens, tout le monde voyage énormément, donc ça s'est un petit peu mixé. Mais ça s'observe quand même encore un petit peu. Et puis c'est vrai qu'après on a rencontré en fait au final pas mal de pédagogues, que ce soit les Aldenberg aussi. De pédagogue germanophone, en fait. Ouais.
Alors, le quatuor Agathe a été nommé Echo Rising Star, ce qui signifie que vous allez sillonner la saison prochaine l'Europe. Vous allez jouer dans quelques grandes et prestigieuses salles européennes. Vous allez représenter la France à travers l'Europe.
Oui, porter les couleurs.
Et alors, dans quelles salles?
Il y en a beaucoup, c'est une vingtaine de dates, donc dans les
dates les plus précises,
ouais, qui nous font
salles.
Rêver, il y a le Musikverein de Vienne, c'est vrai, il y a la Philharmonie de Hambourg,
Philharmonie de Cologne.
Philharmonie de Cologne. On va au Portugal, on va en Angleterre, on va en Grèce, on va en Roumanie.
Philharmonie de Paris aussi, quand même.
Paris, bien sûr. Ouais.
Sachant que les voyages font partie de la vie des quartettistes, vous étiez tout récemment en Colombie, vous avez conscience que votre vie, elle sera en grande partie sur les routes à quatre, enfin, elle l'est déjà depuis quelques années.
Oui, bon, on en a pris conscience petit à petit et maintenant ça fait partie de ce qu'on sait de la vie de quatuor. Et c'est une vie à quatre sur scène, en répétition et aussi dans les trains, les avions le moins possible quand même, il faut bien le dire. La tournée Echo Rising Star, d'ailleurs, est conçue pour prendre le moins possible d'avions, pour voyager le plus possible en train. Donc c'est quand même un engagement qu'on essaie de prendre le plus possible. On était en Colombie, c'est pour le coup, on n'a pas pu s'empêcher de prendre l'avion.
Oui. Voilà. On vous en veut pas. Alors d'ici cette tournée Rising Stars, on pourra vous applaudir en France, à Paris, au Théâtre de l'Atelier. Vous jouerez la musique de Brahms.
On va jouer le premier quatuor. Et ensuite, on va avoir des invités avec nous. Donc, on va jouer un lead composé pour Agathe von Siebold, justement par Brahms, avec Agathe Perra, qui est une chanteuse, et le quatuor Agathe. Donc, ça fait beaucoup d'Agathe, mais ça va être une première partie, un peu sur nos origines, sur la raison de notre nom.
D'ailleurs, vous avez enlevé le H d'Agathe.
Absolument.
Et c'est pour faire référence à la pierre aussi.
Exactement. C'est aussi le symbole de la pierre polie, qui est une pierre semi-précieuse, voilà. On est semi-précieux aussi. Et puis c'est plus graphique aussi d'enlever le H. Ouais.
Et puis il y a un autre enregistrement qui sort également sous le label Appassionato. C'est le label de Mathieu Herzog. Mathieu Herzog, il a joué un rôle important aussi dans votre accompagnement.
Très important. C'est la personne qui nous a accompagnés à l'issue de notre parcours à Berlin. Et il nous a vraiment accompagnés sur toute la période des concours, notamment il a vraiment forgé en fait notre culture du son. Ouais. C'est quelqu'un d'extrêmement important évidemment dans notre parcours. Et puis ensuite il nous a fait confiance au moment de la création de son label.
Donc, parce qu'il vient de le créer son label,
voilà.
Vous êtes l'un des premiers opus.
Exactement.
C'est le deuxième ou le troisième. Le troisième.
Ouais.
On va vous écouter dans quelques notes du concert de chaussons que vous avez enregistré dans l'autre album qui sort avec Franck Bralet et Gabriel Le Magadur. Quels seront vos projets à venir outre ce concert à l'atelier? Est-ce que vous allez rester avec Brahms, le romantisme allemand, ou aller vers d'autres esthétiques?
Alors, les projets à venir, on a un projet un peu différent qui va se faire bientôt au Festival de la Brèche. C'est un peu plus scénographié, avec de la musique contemporaine notamment. Le prochain projet discographique est secret.
Il n'y a pas un disque aux États-Unis, j'ai cru comprendre.
Alors, on l'a enregistré, il est sorti. C'est un disque avec un ténor américain absolument fabuleux qui joue d'ailleurs et qui chante beaucoup en France, qui s'appelle Eric Fehring. Il a voulu faire en fait un mélange entre... Donc, il y a du Fauré, il y a des compositeurs américains, il y a aussi du Brahms d'ailleurs. Et on a enregistré notamment avec lui La Bonne Chanson de Fauré. Il y a aussi une pièce assez méconnue pour quatuor à cordes et... ténor, qui est le triptyque de Arthur Shepherd.
Et puis il y a un rendez-vous en Corse,
ah oui,
vous avez créé un festival l'été, à quelle période?
En septembre, c'était à Ajaccio. Bah, la Corse a été un peu la première raison pour laquelle on s'est mis ensemble en tant que quatuor pour un concert en Corse, en fait, qui n'a finalement pas eu lieu, mais qui nous a donné envie de faire du quatuor et de créer un festival en Corse. Donc c'est vraiment avec grand bonheur qu'on y retourne tous les ans et qu'on essaie de
prolonger l'été.
Voilà, prolonger l'été.
Ben on vous comprend, quel bonheur d'être en Corse. Merci beaucoup Adrien Jurkovic et Simon Yachmé. On va se quitter avec un extrait de l'autre album publié par Appassionato, dans lequel on vous entend aux côtés de vos collègues du Quatuor Agathe, bien entendu, mais aussi de Franck Bralet et de Gabriel Le Magadur dans la Sicilienne du concert d'Ernest Chausson. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un petit extrait de la Sicilienne de Chausson par le pianiste Franck Bralet, le violoniste Gabriel Le Magadur et le Quatuor Agathe, une publication du label Appassionato qui est sortie en même temps que l'intégrale Brahms du Quatuor Agathe.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors c'est au Luxembourg que vous nous emmenez ce soir.
Oui, à la très belle Philharmonie du Luxembourg, dessinée par Christian de Porzamparc avec sa belle façade qui évoque les cordes d'une harpe, d'une immense harpe. Et elle nous invite en ce mois de mars à célébrer d'autres cordes, celles du violon. Demain, vendredi 8 mars, une soirée avec le London Symphony Orchestra et son chef Simon Rattle, qui sont en tournée en ce moment, passe par le Luxembourg et met au programme notamment le concerto pour violon de Brahms avec Isabelle Faust en soliste. Une des grandes pages du répertoire de l'instrument, composée par Brahms pour son ami le virtuose Joseph Joachim, l'œuvre fut créée le 1er janvier 1879 à Leipzig, sous la direction du compositeur. Alors l'accueil, sans être mauvais, ne fut pas des plus chaleureux à cette époque. Le premier mouvement, notamment, avait été considéré comme un peu abrupt, moins chantant que ne l'espéraient les auditeurs et les critiques. Alors aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, puisque cette œuvre figure parmi les incontournable, comme on dit, de la littérature pour violon, surtout quand il bénéficie de l'interprétation tant orchestrale que solistique annoncée demain. Isabelle Faust, en effet, dont le son très fin, le jeu suprêmement élégant et l'intonation absolument exemplaire figurent parmi les premières qualités, connaît cette partition presque comme si Brahms la lui avait offerte directement. Elle l'a d'ailleurs enregistrée, on l'écoutera tout à l'heure sous la direction de Daniel Harding, ou joué il y a quelques années à peine avec l'Orchestre de Paris sous la direction de Klaus Mäkelä.
Alors Emmanuel, vous évoquiez une seconde fête du violon à la Philharmonie du Luxembourg.
Exactement, quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 12 mars, Janine Janssen succédera donc à Isabelle Faust au royaume du violon. Elle sera entourée de deux de ses amis, l'altiste Timothée Ridaout et le violoncelliste Daniel Blendulf, donc très attendu Janine Janssen, mais dans un programme qui lui l'est peut-être moins. Parce qu'en effet, ces trois musiciens vont interpréter leur propre transcription des variations Goldberg de Bach, passant ainsi des 10 doigts du claveciniste ou du pianiste aux 12 cordes de leur trio. Ils se partagent le contrepoint savant, le contrepoint grisant même de cette œuvre maîtresse du répertoire, donc on l'a dit, du clavecin, et ils s'en emparent comme tant de pianistes en sont emparés, mais aussi d'autres instrumentistes et déjà un trio à cordes, puisqu'en 85, Dmitri Sitkovetsky avait composé une adaptation pour trio que Janine Janssen a d'ailleurs enregistré. Il existe aussi d'autres versions pour accordéon, par exemple, comme celle assez récente de la formidable accordéoniste Fanny Vincent, ou pour duo de guitare, le duo Mélisande en avait livré là aussi sa version tout à fait remarquable. Et si ce genre d'expérience peut bousculer l'auditeur qui doit mettre un petit moment pour retrouver ses repères, elles sont souvent, si elles sont réussies, une très belle école d'écoute. Elles aident notre oreille à reconnaître différemment la structure des œuvres, son architecture. En changeant la couleur et la texture des timbres, elles invitent à mieux comprendre les lignes de force, le texte et le sous-texte des partitions. Et quand il s'agit d'une telle œuvre, les variations Goldberg de Bach, la partition en question supporte sans faiblir qu'on la bouleverse si on le fait avec talent et humilité, parce que la solidité des fondations et la force de l'inspiration, elle demeure en pleine lumière. Mais on va faire un petit retour en arrière, non pas dans le temps, mais pour parler de la soirée de demain avec Isabelle Faust et Brahms. We'll be right back.
Le début du troisième mouvement du concerto pour violon de Brahms avec Isabelle Faust, ici accompagnée par le Mahler Chamber Orchestra sous la direction de Daniel Harding. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage au Luxembourg et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Guillaume Gallienne qui fait son retour à l'opéra, met en scène un diptyque avec l'heure espagnole de Ravel et juste avant Pulcinella de Stravinsky. Il nous en dira quelques mots. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée sur Radio Classique avec Francis Drezel.